Le Seigneur est bon et sa fidélité durera toujours. J'étais un peu surpris entre hier soir et ce soir en arrivant ici. Vous aviez rendez-vous avec la météo en tout cas. Nous avons encore la grâce d'être un peu au chaud, mais alors vous nous avez surpris ce soir. Avant peut-être je ne suis pas venu seul ce soir, j'ai mon épouse qui m'accompagne et souvent on me dit « Mais pasteur Peter Schmidt, vous êtes comme Colombo. Vous parlez toujours de votre femme et on la voit jamais. » Alors, j'aimerais vous dire, j'en ai une, puis je l'ai emmenée ce soir. Enfin, elle m'a accompagné. Bien que je te présente. Voilà mon épouse. La maman de nos 6 enfants. Nous avons la grâce déjà grands-parents 3 fois et bientôt nous le serons 5 fois. On est vraiment heureux de voir ce que le Seigneur fait également avec nos enfants. D'ailleurs, j'ai un de mes fils qui sert dans une église, est responsable d'un groupe de jeunes dans une église ici à Bienne. Dieu a conduit les choses de manière assez particulière. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous donner son témoignage, si Dieu le permet ce soir. Alors, ce soir, je me suis dit, pour nous rattraper de hier soir, on devait vous passer un témoignage hier soir. Et il n'a pas passé. Alors ce soir, je me suis dit, je vais vous montrer 2 témoignages, et puis je vous en lirai encore un troisième. Le premier, Melvin, c'est un de ces enfants des quartiers dont vous allez entendre le témoignage là. La première fois qu'il a entendu l'évangile, il avait 12 ans. Évidemment, il parle le français, mais un peu le français des quartiers. Donc il n'a pas l'accent suisse, pardonnez-le. Essayez de le suivre.
Bonjour à tous. Voilà, moi je m'appelle Melvin, je suis né dans les quartiers chauds de Mulhouse. Voilà, tout a commencé à partir de l'âge de 13 ans. Je suis né vraiment dans une famille difficile et à partir de 13 ans, il y a quartier libre qui sont venus dans le quartier. Et c'était cool, on faisait du bricolage, on parlait, on faisait du foot, on mangeait, c'était vraiment cool. Par contre, après, ils nous parlaient un peu de Dieu, mais ça, je n'avais vraiment rien à faire, quoi. Puis vraiment, de 13 ans à 16 ans, je commence à faire mes conneries, mes bêtises. Et vraiment, à partir de 16 ans, là, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision et c'était vraiment de faire ma propre vie à moi. Comme si que c'est moi qui décidais l'instant de ma vie. Alors j'ai commencé à fumer parce que mes potes fumaient. J'ai commencé à boire de l'alcool. J'ai commencé à voler des voitures. J'ai commencé à brûler des voitures juste pour montrer que j'étais une personne importante dans ce quartier. Et je me suis fait tirer dessus par la police. C'était vraiment chaud. Et je vendais de la drogue. Je pensais vraiment tomber en prison. J'étais vraiment bas, quoi. Et après toutes ces conneries, ben c'est comme si il manquait quelque chose dans mon cœur. Il manquait comme si, je sais pas, il manquait l'essentiel dans ma vie. Il manquait vraiment la chose la plus importante. Et puis une fois, il y a un quartier libre, ils m'ont invité à aller à une colonie de vacances. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? De toute façon, je suis au plus bas et ça va rien changer à ma vie. Je suis allé à cette colonie et je me rappelle que tous les matins, on allait dans les cultes. Ça, c'était vraiment ennuyant. Ça me saoulait tout le temps. Il nous parlait de Dieu. Et à un moment, il y a un animateur qui me disait, voilà, je vous lance un défi. Demandez n'importe quelle chose à Dieu et vous allez voir ce qui va changer. Et à partir de là, je fais, waouh, mais je peux demander quelque chose, quoi. Et vraiment, j'ai fait la prière la plus courte de ma vie. Mais par contre, c'était vraiment une prière sincère. Et j'ai juste demandé à Dieu qui changeait ma vie, qui devait tout changer. Et à partir de cette prière, waouh, c'est passé des choses de malade. J'étais délivré de la drogue, je sais même pas comment. J'avais plus envie de fumer, plus rien du tout. Tout a changé dans ma vie. J'ai tout abandonné à Dieu. Et là, ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Et là, il se passe des choses de malade. Là, je peux vraiment savoir ce que c'est le vrai goût de la vie, quoi. Je suis animateur dans les quartiers. Je veux trop booster ces jeunes parce qu'ils sont tellement perdus. Voilà, merci.
Pour moi, c'est une telle joie. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, ces jeunes-là sont arrivés, ils avaient 13 ans. Vous savez que Mulhouse est dans sa catégorie de ville, la ville la plus criminelle de France. Nous sommes donc dans une des villes qui a la plus mauvaise réputation en France. Au niveau de la pauvreté, c'est la 3e ville de France, la plus pauvre. Mais il paraît, et j'ai appris cela par la bouche de l'adjoint au maire, que c'est également la ville la plus jeune de France. Et nous sommes dans le quartier le plus jeune de la ville. On est dans un quartier où il y a à peu près 80% de musulmans. Et Dieu fait une œuvre extraordinaire. Nos équipes se font caillasser. Ils ont vécu toutes sortes de violences, mais ils retournent. Et aujourd'hui, des jeunes comme lui qui font partie de ceux qui faisaient de Mulhouse une des villes championnes de France en matière de voitures brûlées, eh bien des jeunes comme ça viennent à Jésus. Et cela impacte la ville, cela impacte les politiques. Et comme je le disais hier soir, maintenant ce sont les politiques qui commencent à reconnaître le travail qui est fait. C'est la police qui commence à dire, mais là où Quartier Libre se trouve, où l'action est faite, la criminalité baisse. Et moi je bénis Dieu pour ça. Et lorsqu'on me demande si Dieu agit encore aujourd'hui, eh bien non seulement il agit dans les corps, mais il peut changer des quartiers. Et Melvin certainement serait ou en prison aujourd'hui ou serait mort. Aujourd'hui il est fiancé, il mène une vie sérieuse, il aime Dieu de tout son cœur et maintenant c'est lui qui est un des animateurs dans les quartiers. Vous savez, c'est une joie tellement grande et je bénis le Seigneur de ce que nous avons le droit de faire cela. Et donc, vous avez énormément de jeunes gens qui chantent sur ce CD et qui sont issus de ces quartiers-là. Témoignage de Monique, vous verrez qu'à Dieu, également, tout est possible.
Bonjour Monique, vous m'avez confié tout à l'heure que vous aviez été atteinte d'un cancer, mais que vous avez été guérie de manière surnaturelle. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé ?
Oui, j'ai été atteinte d'un cancer de l'ovaire et j'étais remplie de 8 litres d'eau, du liquide métastasé, et j'avais 5% de chance à survivre. Et c'est lors d'un culte le dimanche matin pendant les louanges que le Seigneur a donné une parole qu'une femme est guérie du cancer. Et après ma première opération, la deuxième opération était prévue d'office. Et c'est lors de la deuxième opération qu'ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien.
Vous avez été totalement guérie sans récidive.
Sans récidive, oui.
Les médecins étaient surpris, me disiez-vous ?
Les médecins, ils ont constaté sur le champ même qu'il n'y avait plus rien. Et c'est là que tout le corps médical était surpris. Ils m'ont vu venir au mois d'avril dans l'État et ils m'ont dit que plus d'une femme était déjà rentrée dans l'état où je me trouvais et n'est plus ressortie.
Vous voulez dire décédée dans l'état où vous êtes.
Voilà, voilà.
Et depuis lors, vous êtes en bonne santé.
Oui, je suis en bonne santé.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui entendront votre témoignage.
Merci, merci beaucoup.
Toutes ces personnes, vous pouvez bien sûr les rencontrer. Vous pouvez leur poser les questions vous-même. Ce ne sont pas des témoignages qui viennent de l'autre bout de la planète. Ça se passe à quelques 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie d'ici. Et le Seigneur est toujours encore le même. Il y a peu de temps de cela, vous savez que nos cultes sont sur le net également. Alors évidemment, si vous avez une église, votre place est dans votre église. Les deux amen sont ceux des pasteurs. Mais je confirme et j'appuie. Mais voilà le témoignage de M. Valdecabre Daniel de la ville de Canet. Dimanche le 29 décembre 2013, le pasteur Peter Schmitt a demandé de mettre la main où l'on souffrait. J'ai ressenti une très forte chaleur au bas du dos et la douleur qui était intense a disparu aussitôt. Je souffrais du syndrome de la queue de cheval, compression des nerfs au bas du dos. Ma vertèbre lombaire était déplacée de 15 mm, sciatique dans les deux jambes, douleur intense jour et nuit. Chaque mouvement me donnait de l'électricité depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, je peux poser mes jambes normalement, marcher sans problème, plus de douleur. À Dieu soit toute la gloire. Cet homme pleurait lorsqu'il m'a appelé au bout du fil. Il pleurait en me disant, « Pasteur, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente eh bien, de ne plus souffrir lorsque vous souffrez 24 heures sur 24 depuis 1 an et demi. Et lorsque soudain, rien qu'en posant la main, toute cette souffrance, toute cette accumulation de peine disparaît comme par enchantement. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en lui, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Il change les vies. Il donne de l'espérance à ceux qui n'en ont pas. Je pourrais vous faire passer d'autres témoignages encore, Mais le but n'est pas simplement de passer des témoignages, comme je le disais hier soir. On peut voir des miracles. On peut assister à des guérisons. On peut expérimenter de nombreuses choses et pourtant ne jamais rencontrer celui qui opère ces choses-là. Ce qui est essentiel, c'est que nous rencontrions celui qui opère ces choses-là. Parce que non seulement il intervient maintenant, mais il nous donne un avenir éternel. Cet après-midi, alors que j'avais les obsèques de cette dame, la cousine de mon épouse, décédée donc par accident il y a une semaine, dimanche dernier, eh bien, si Dieu n'est pas là, alors il n'y a plus d'espérance. Et je disais à l'assistance, les seuls que je plains dans cette assistance, ce sont ceux qui ne croient pas. Parce que pour vous, tout est fini. Pour vous, plus rien n'a de sens. C'est vous que je plains. Ceux qui croient, je ne les plains pas parce qu'ils ont une espérance. Ils savent où ils vont. Leur vie a un sens. Mais vous qui ne croyez pas, votre vie n'a aucun sens. Votre vie n'a aucune raison d'être dans ce sens que la tombe, pour vous, marque la fin de toute chose. Alors qu'au contraire, elle est le commencement. Et permettez-moi, même si ce n'est pas encore le message, simplement de vous donner une image que je leur ai laissée cet après-midi. Je leur disais, vous savez, l'éternité est une certitude, pas une éventualité. Et une certitude aussi sûre que si, par exemple, je prenais une femme enceinte. Y a-t-il une femme enceinte parmi nous? En général, ma femme l'était toujours, mais maintenant, le temps est passé. Et lorsqu'il y a une femme enceinte dans l'auditoire, je la prends parfois. Imaginez que je prenne une femme enceinte et que je parle à son bébé dans le ventre. Évidemment, c'est virtuel, on est dans le monde du virtuel, mais on peut faire cet effort intellectuel et nous imaginer un tel dialogue. Imaginez que je dise au bébé, « Hey, hey Charles !» Oui, j'aurais pu choisir une dame, oui. Mais c'est tellement dans l'air du temps maintenant qu'on s'en sort plus. Je vais prendre une dame, une vieille dame. « Hey Charles, bientôt tu vas venir sur la terre. » Tu vas voir les oiseaux, tu vas voir le soleil, tu vas voir eh bien les chiens, tu vas voir les chats, tu vas pouvoir t'amuser avec eux, tu vas rouler en vélo. Et Charles me répond, t'es fou, moi je crois que ce que je vois. Vous voyez, ça nous fait tous rire. Mais oui, lui dans son monde à lui, lui dans le liquide amniotique, lui ayant des yeux mais ne voyant pas, lui avec son cordon ombilical, à aucun moment ne peut imaginer ce que je suis en train de lui dire. Son cerveau a autant de difficultés à saisir ce que je suis en train de lui dire que nous avons à saisir le ciel. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le voit pas que ce que je lui ai dit n'existe pas. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le ciel présentement ici que pour autant le ciel n'existe pas. Et au contraire, aussi sûr que je parle au petit Charles et aussi sûr que le petit Charles arrive un jour sur la terre de laquelle je lui parle, Jésus nous en parlait en nous disant « Je vous ai préparé une place ». Lui sait de quoi il parle, il vient de là-bas. Il est venu pour nous en parler et il repart là-bas. Il est comme moi qui parle au petit Charles, moi j'y suis déjà, je sais de quoi je lui parle. Et même s'il me dit je suis fou, je sais que je suis moins fou que lui. Chers amis, j'aimerais vous dire que le temps viendra où nous quitterons cette terre et la mort, eh bien ce serait cet enfantement dans le ciel. Nous laissons notre corps qui n'est que le véhicule de notre âme. Ce n'est pas plus le corps. Le corps n'est que l'endroit dans lequel vous habitez. Lorsque vous trouvez la coquille d'escargot, souvent elle est vide. Hey, il a continué son chemin. Nous continuerons notre chemin. Et je bénis Dieu pour cela. Ça, c'est que l'enveloppe dans laquelle je me trouve. Mais personne ne m'a jamais vu. Même pas Dominique. Elle connaît l'apparence, elle connaît l'enveloppe. Mais Samuel habite à l'intérieur. Un jour, Samuel dit « Ciao !» Et elle n'aura plus que l'enveloppe. Vide. Mais quelle espérance! Mes amis, quelle espérance! Là, la vie a du sens. Mais quand vous avez compris cela, alors là, vous orientez votre vie totalement différemment. Vous ne pensez plus de la même manière. Vous ne vivez plus pour les mêmes raisons. Vous n'avez plus les mêmes objectifs, plus les mêmes priorités. Parce que vous savez que ce que vous faites ici-bas est déterminant pour l'éternité. Vous savez que ce Dieu qui agit ici vous attend également dans l'au-delà. Maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'agir? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de nous diriger? Qu'est-ce qui peut l'empêcher parfois eh bien, de se manifester? J'aimerais aborder un sujet qui peut concerner les uns et les autres, c'est la peur. Et j'aimerais pour cela ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je suppose que depuis hier, vous l'avez amené. Comment ça, non ? Dans Luc, au chapitre 8, au verset 22, nous lisons ensemble. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Chers amis, vous savez, très souvent, nous lisons notre Bible et nous la lisons en particulier maintenant avec la neige qu'il y a au coin du feu. Puis nous lisons ça de manière très poétique. Nous le lisons comme on nous l'a appris à l'école. Mais la manière de le lire détermine également ce que vous allez ressentir en face du texte. Si je lis de cette manière-là, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Et sincèrement, vous croyez que c'est comme ça que ça s'est passé ? Ça, c'est de la poésie. Ça, c'est la manière dont nous le lisons. Mais dans la réalité, ils étaient terrorisés par la perspective de la mort. Il y avait en eux une angoisse terrible, celle de mourir. Lorsqu'ils vinrent voir Jésus, ce sont des hommes angoissés, des hommes paniqués, des hommes paralysés par la peur, capables de ne plus rien faire et n'ayant plus de solution. Nous le savons tous, ils étaient marins et ils étaient aguerris. Des tempêtes, ils en ont essuyé sûrement plus d'une. Mais cette fois-ci, les vagues sont plus hautes que d'habitude, les creux plus profonds et l'eau dans la barque, certainement, est bien plus abondante que jamais auparavant. Et là, ils ne maîtrisent plus la situation. Et c'est souvent là que la peur vient. C'est souvent là que viennent les angoisses. C'est souvent là que nous sommes paniqués. Et dans notre désespérance, nous crions à Dieu, mais plus par peur que par foi. Ce qui nous amène à lui, ce n'est pas la foi, c'est la peur que nous avons. Dieu ne s'intéresse pas à nous dans la peur. Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. La peur agit sur chacun d'entre nous et peut avoir toutes sortes d'effets. Alors, il y a des effets positifs de la peur. Tout dans la peur n'est pas mauvais. Si nous respectons tous les limitations de vitesse, c'est juste par peur d'être pris par la police. Donc ça a un avantage, ça nous permet de circuler en tranquillité. Vous savez, on a vu en France, il suffisait d'une panne de courant dans les magasins que tout d'un coup le magasin se faisait dévaliser par les mêmes clients qui étaient honnêtes les autres jours. Mais pourquoi est-ce qu'ils le dévalisaient ce jour-là ? Parce qu'ils étaient sûrs de ne pas se faire choper. Vous voyez que la peur peut exercer une attitude qui, même si au fond elle n'est pas juste, permet au moins le vivre ensemble. Cependant, la peur a beaucoup plus de mauvais effets et la peur peut apparaître à différents moments de nos vies. Vous avez des personnes qui rentrent chez leur médecin, sont en pleine forme, ils y rentrent avec le sourire, c'est juste aller à un contrôle, on a 50 ans, il paraît qu'à 50 ans c'est comme pour les voitures, il faut faire le TUF. Hein. Et puis alors on nous passe en revue, les gars ils rentrent avec le sourire, ils sortent, tu les reconnais plus. On vient de leur déceler un cancer. Et soudain, dans la tête, quelque chose bascule. Soudain, l'homme plein d'entrain, soudain, l'homme courageux, soudain, l'homme heureux de vivre, a le sentiment que son monde s'effondre. Que tout ce pourquoi il est là s'effondre. Que tout ce qui l'avait encore en perspective s'effondre. Une nouvelle suffit pour vous ébranler. C'est parfois un courrier qui arrive dans la boîte aux lettres et qui signifie à quelqu'un qu'il a perdu son travail. Mais c'est parfois également une nouvelle qui nous vient d'un membre proche qui est décédé. Ça peut se manifester sous différentes formes. Je sais que moi et mon épouse, nous avons il y a maintenant un peu plus d'un an que cela connu la peur, une vraie peur. Une peur terrible lorsque nous avons vu rentrer l'un de nos fils. Il rentrait d'Angleterre où il était avec sa sœur depuis des mois. Et lorsqu'il est arrivé, nous nous réjouissions de les recevoir, nous nous réjouissions de retrouver nos enfants. Et là, soudain, eh bien, est sorti de l'avion un fils qui, pour moi, était devenu méconnaissable. Ce n'était plus le même jeune homme que j'ai vu sortir. Et nous avons éprouvé ce qu'est la peur. Nous avons éprouvé ce qu'est l'angoisse. Parce que nous avons tout d'un coup vu rentrer en France un fils qui était malade. Un fils qui avait des pulsions de mort. Un fils qui avait également des pulsions de meurtre. Un fils qui avait des hallucinations, qui entendait des voix et les voix lui disaient de nous tuer. Et nous n'avons pas passé un jour comme ça, ni deux jours comme ça. Ça a presque duré une année. Et nous avons commencé à découvrir, et j'ai commencé à découvrir, et ma femme a commencé à découvrir ce que ça voulait dire ne plus dormir la nuit. Ce que ça voulait dire, eh bien, être tellement à l'affût du moindre bruit, que le moindre bruit, le moindre grincement de plancher vous réveillait. Et puis j'ai commencé à apprendre ce que c'est d'avoir un fils dont le regard tout d'un coup changeait à table et changeait tellement que j'enlevais les couteaux qui étaient à table. Nous avons commencé à ressentir ce que c'est, mais pas dans nos têtes. C'est quelque chose que nous vivions dans nos entrailles. Et j'ai commencé à savoir ce qu'est la peur, cette peur qui vous prend ici. Cette peur qui tout d'un coup eh bien, se traduit par des angoisses. Cette peur qui se traduit physiquement par des perturbations dans votre capacité de respirer. Tout d'un coup, notre monde basculait. Tout d'un coup, notre monde était passé dans le cauchemar. Nous avons appris ce que ça voulait dire avoir peur de rentrer et de trouver notre fils mort. Et j'ai appris ce que ça voulait dire chaque fois que j'ouvrais mon garage, j'ai une porte de garage qui s'ouvre de cette manière-là. Ce que c'est l'angoisse d'ouvrir en ayant peur que mon fils soit pendu dans le garage. Je ne connaissais pas cela. Et à ce moment-là, des questions ont commencé à se bousculer dans ma tête. Parce que pendant que mon fils était malade, le Seigneur m'utilisait pour la guérison d'autres malades. Et pendant qu'il était malade, je continuais à annoncer l'évangile. Et nous avons, pendant ces mois qui ont été longs, qui ont été pénibles, qui ont été remplis de moments de désespoir et du désespoir le plus profond, je me souviendrai toujours, lorsque j'étais à Grenoble dans l'une des pastorales et que ma femme m'appela en pleurs le soir, il était 23h, elle me disait « Sam, j'en peux plus, j'ai dû l'hospitaliser de force, il est en train de partir attaché sur une civière. » Nous avons appris ce que c'est pleurer. Alors non pas que nous n'ayons jamais été éprouvés auparavant, nous avions un de nos fils qui avait eu une tumeur, et lorsque lui aussi est revenu et que le médecin nous annonçait une tumeur au cerveau, nous avons connu ce que ça veut dire, eh bien, avoir peur. Alors oui, je suis un homme de foi, mais je le disais hier soir, la foi, eh bien, ne nous rend pas insensibles à la réalité. Et puis nous avons connu ces moments où notre fils a voulu se suicider, je me souviendrai toujours lorsqu'un soir, alors que je devais mener la louange dans l'église parce que je n'arrêtais pas le ministère, j'ai continué les évangélisations, il fallait continuer à conduire l'église. Nous ne pouvions pas nous arrêter, je ne pouvais pas m'arrêter. Eh bien, mon épouse m'appelle, il était 19h45, j'étais dans une petite pièce où je prie, en général, avant de conduire la louange ou avant de prêcher. Et puis, elle me dit, Sam, s'il te plaît, rentre vite. Il a pris les produits inflammables pour allumer le feu, pour s'immoler. Et je ne pouvais pas partir. Il n'y avait personne, je ne pouvais pas laisser l'église. Ce sont des milliers de personnes maintenant. Et je disais, d'homme, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas revenir, c'est impossible, je suis obligé de rester. Mais je vais prier, j'ai appris ce que ça voulait dire, crier à Dieu lorsque vous savez que votre fils veut s'immoler et que vous alliez conduire la louange pendant ce temps-là. Et là, vous avez des moments où vous avez le sentiment que dans la tête, vous allez exploser. Ces choses-là, nous les avons vécues de près et j'en parle avec encore une certaine émotion. Et j'en parle aussi parce que je sais que des hommes et des femmes ont connu ça avec des fils ou des filles. Vous savez, c'est le genre de maladie, vous savez quand vous y entrez, vous ne savez pas si vous en sortez un jour. J'ai rencontré des parents dont le fils était comme ça depuis 10 ans, 20 ans, dont la vie a totalement basculé, dont tout a totalement basculé. La peur, Elle peut vous rencontrer à n'importe quel moment. Elle peut vous attendre à n'importe quel tournant. Mes amis, ce soir, la peur est toujours une mauvaise conseillère. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que nous avons vécu avec notre fils. Mais la peur est une mauvaise conseillère. Dans les moments de peur, eh bien vous faites des choix qui ne sont pas forcément les bons choix. La peur vous pousse à faire des choix, mais ce n'est pas toujours les choix les meilleurs. Ou alors la peur vous empêche parfois d'agir et de faire le bien que vous devriez faire par peur. Vous savez, on parle souvent du Samaritain, le bon Samaritain. Qui n'a jamais entendu parler du bon Samaritain? Qui n'a jamais entendu parler des méchants religieux? Qui, eux, se sont pas arrêtés sur le chemin de cet homme qui souffrait? Qui n'a jamais entendu parler de cela? Eh bien, un jour, je lisais un sermon de Martin Luther King. Martin Luther King a fait une réflexion qui m'a impressionné. Je vous la livre ce soir parce qu'elle est tellement pertinente. Martin Luther King disait, le problème des religieux est-il suivant. Si nous nous arrêtons à cet endroit où il y a des brigands pour nous occuper de cet homme-là, que nous arrivera-t-il? Ça, c'était la question déterminante pour ces hommes qui les empêchera d'agir, la peur de ce qui pourrait leur arriver. Combien de gens n'agissent pas par peur de ce qui pourrait leur arriver ou par peur de ce que coûte l'investissement? Il dira, le Samaritain, lui, se posait également une question, mais cela posera différemment. Il dira, que lui arrivera-t-il à lui si je ne m'arrête pas? Les premiers se diront, que nous arrivera-t-il à nous si nous ne nous arrêtons pas? Le second dira, que lui arrivera-t-il à lui si je ne m'arrête pas? Lorsque, la première fois, mon cher ami et frère Bertrand Huetz, qui est un homme de Dieu hors pair, j'en connais peu comme lui, c'est un de mes collaborateurs depuis de longues années maintenant, est revenu d'une visite dans le quartier où habitait Melvin, et où en sortant de la porte d'un de ses immeubles, il venait d'entendre le bruit d'une jeune fille de 16 ans enceinte qui se suicidait, et que là, en sortant, il voyait le corps, il reviendra bouleversé au bureau. Il me dira, Sam, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, je ne sais pas comment faire. Je suis impressionné par la tâche. De ce quoi, je n'ai pas été formé pour ça. Et ça m'effraie. Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Parce que si nous ne faisons rien, que leur arrivera-t-il à tous ces enfants? Et il me disait, avec des larmes dans les yeux, l'évangile n'est pas fait pour rester dans le cadre des quatre murs d'une église. Que ferons-nous? Et c'est ainsi que Bertrand va commencer sans savoir par où commencer. Elle commencera avec une toute petite équipe, sans jamais avoir été formée au travail dans les quartiers, en se faisant caillasser, cracher dessus. Un jour ils sont arrivés, un jeune homme de 20 ans se vidait de son sang, il venait d'être poignardé. Il a connu des peurs, il a connu des angoisses, mais cette peur-là, au lieu de l'arrêter, va le booster à aller plus loin en disant, mais si nous n'y allons pas, qu'est-ce qui leur arrivera? Aujourd'hui, c'est un millier d'enfants qui est touché, c'est des Melvin qui sont sauvés, c'est des vies entières qui changent, et ce n'est pas seulement la vie de Melvin qui change, ce sont des générations qui en bénéficieront. Parce que les enfants de Melvin, les petits-enfants un jour de Melvin, si Jésus n'est pas revenu entre-temps, connaîtront une autre destinée que ce qu'ils auraient connu s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui dit, mais si on n'y va pas, qu'est-ce qui leur arrivera? La peur est mauvaise conseillère. Elle peut vous empêcher d'agir, elle peut vous empêcher d'aider, elle peut vous amener à faire toutes sortes d'erreurs. Vous savez, les lions ont bien compris cela. Les lions ont une technique de chasse qui repose sur la peur. Lorsque dans la savane, les lions repèrent une gazelle, ils ont une stratégie. Les jeunes lions les plus vigoureux, les plus forts, ceux qui courent le plus vite, se tapissent dans les hautes herbes. Pendant que le plus vieux des lions, celui qui a des rhumatismes, va dans l'autre sens et se met en face de la gazelle. Et là, il rugit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le rugissement d'un lion. Moi, j'en ai entendu et c'était au zoo. Eh bien, je vous garantis que j'étais content d'être de l'autre côté de la barrière. Ça vous saisit, ça vous paralyse. Lorsque le vieux lion rugit, que se passe-t-il dans la tête de la gazelle? Bien, la peur monte. Et que lui dicte la peur? Le lion est là, file dans l'autre sens, exactement là où elle est attendue. La peur vous indique souvent la mauvaise décision. me souviens un jour sur mon lieu de travail, alors que j'étais encore dans une merveilleuse usine qui fait les meilleurs véhicules du monde, je parlais bien de Peugeot. Vous avez bien entendu Peugeot, vous Suisses qui n'avez pas de fabrique d'usine, comment se fait-il que vous achetiez ailleurs qu'en France? Vous devriez vous repentir tous ce soir. Et alors que j'étais là-bas, j'étais électromécanicien à l'époque, vous voyez, ça a été mon école de théologie, 5 ans à Peugeot. Équipe du matin, équipe d'après-midi et équipe de nuit pendant un an. Et ça m'a permis de toucher le monde ouvrier. Et aujourd'hui, quand des gens viennent me voir en me disant « Pasteur, je suis fatigué, je suis d'équipe de nuit », je sais ce que ça veut dire. Quand je rentrais de mes équipes de nuit, au début, j'étais tout vigoureux, tout fort. Je me couchais à 6 heures le matin, je me levais à midi. Je disais « Waouh, c'est formidable, je gagne tout mon après-midi, etc. » Et puis, au bout d'un moment, je me couchais à 6 heures, je me levais à 13 heures. Et puis à 14 heures. Et à la fin, je me couchais à 6 heures, je me levais à 19 heures pour repartir au boulot à 20 heures. Je ne récupérais plus. Donc quand les gens me disent qu'ils sont fatigués, je sais de quoi vous parler. Vous savez, souvent on a l'impression que les pasteurs, c'est que des théoriciens. Maintenant, il y en a qui ont de la pratique. Alors que j'étais là, je voulais gagner du temps. Et j'ai fait une mauvaise manipulation qui m'a amené à faire des dégâts sur un robot. Quand vous êtes seul, ouvrier, que vous faites une bêtise, c'est grave. Puisque vous n'êtes plus productif, vous devez vous arrêter. Mais quand vous en faites une à l'endroit où j'étais, c'est des centaines d'ouvriers qui s'arrêtent. C'est-à-dire que dans la demi-heure qui vient, on nous emmène encore des pièces, et puis ensuite ça s'arrête. Et là, ça commence à se calculer très rapidement en millions. Donc je savais que c'était grave. Personne ne m'avait vu, si ce n'est un vieil Alsacien qui était tout proche de sa retraite. Et quand il a vu ce qui s'est passé, il me regarde, il dit « Peter Schmidt, il m'aimait bien le gars, moi avec les Alsaciens j'avais toujours, j'ai un bon contact avec tout le monde, hein, mais il m'aimait bien, et comme il partait à la retraite, il dit « on n'a rien vu, on dit rien ». Et vous savez la peur, à cette époque-là, on était jeunes mariés, je crois qu'on avait 21 ans, j'avais 21 ans, on avait déjà deux enfants, j'avais acheté une maison à 18 ans, moi j'ai jamais eu de voiture neuve, j'ai juste appris à rembourser. Donc à 18 ans, moi, mes copains, ils faisaient la fête, ils faisaient un tas de trucs que nous, on ne connaissait pas. Nous, on ne partait pas en vacances. Il fallait rembourser la maison. Et là, tu te dis tout d'un coup, waouh, tu vas perdre ton boulot. Et mon épouse était enceinte. Elle t'a été souvent enceinte quand même. Hein. Et vous savez, ce qui est terrible, ce n'était pas de ma faute. Moi, je dormais. Hein. Tout s'est passé dans mon sommeil. Et là, je dois dire, je luttais intérieurement. Et bien sûr, les ingénieurs cherchaient. Et informatiquement, ils ne trouvaient rien. Chaque fois que je regardais le vieux, il me faisait un clin d'œil. Mais il ne m'aidait pas. Enfin, il m'aidait d'un côté, il m'aidait bien sûr. Mais de l'autre côté, ça ne m'aidait pas à faire le bon choix. Et ma volonté, ça aurait plutôt été de dire, je dis rien. Je n'ai pas menti, je n'ai rien dit. Et parce qu'après, on se rassure encore. Hein, on essaie de se conforter. Et puis finalement, intérieurement, vous savez, quand vous aimez Dieu, alors Dieu agit pas seulement pour les miracles. Mais Dieu agit aussi pour parler à votre conscience. Il me disait, dis-le. Je disais, Seigneur, si je le dis, je suis fichu. Dis-le. Et le vieux qui n'arrêtait pas. Au bout d'un moment, je vais voir un de mes chefs qui, en plus de ça, était quelqu'un de désagréable. Quelqu'un qui... le gars, il avait été baptisé dans le vinaigre. Et puis je vais le voir et je dis, écoute, je sais où est la panne. Il dit, ah bon? Mais alors, pourquoi tu ne le dis pas? Elle est où? Elle est là. Il me regarde, il dit quoi? Comment ça elle est là? Je dis c'est moi qui ai fait une faute. Il est devenu blanc. Bon, il était déjà blanc. Mais là, il était devenu comme les lessives. Plus blanc que blanc. Et puis évidemment, tout s'est mis en branle et la réparation a été faite. Ça a duré 2-3 heures, je ne sais plus. Et là, je suis rentré le soir. C'est le genre de nuit où vous dormez les yeux ouverts. Et vous vérifiez si le plafond est parallèle au sol. Et puis... est arrivée la fin du mois et on me dit « Peter Schmidt, tu es convoqué au bureau. » Et là, pour moi, c'était automatiquement, c'était la conclusion logique. On vous remercie pour vos bons services et au revoir et à la prochaine fois. Et je rentre dans le bureau, c'était même pas mon chef, c'était le chef d'atelier, il me dit « Asseyez-vous. » Et puis il me regarde droit et il me dit « Nous sommes contents de votre travail et nous avons décidé de vous augmenter. » Si vous m'aviez coupé avec un couteau, le sang n'aurait même pas coulé. Tellement j'étais sidéré d'avoir une augmentation. J'ai pas dit maintenant aller faire une bêtise au boulot et puis que vous aurez une augmentation, hein. Mais ce qui a été sûr dans ce moment-là et ce qui a été déterminant, c'est qu'à cause de l'honnêteté, eux ont été convaincus. Cependant, la peur me disait de mentir. Qu'est-ce qui a dicté la conduite à Pierre? Pourquoi Pierre a renié Jésus? Vous savez, Pierre a été extrêmement courageux. Souvent, on ne cite que ce moment-là, mais j'aimerais rappeler que Pierre avait sorti l'épée. Il avait coupé l'oreille au centenier, et ce n'est pas l'oreille qu'il visait. Hein, non, parce que là aussi, tiens, viens voir. Vous savez, souvent, on lit le texte. Souvent, on lit le texte et on dit, il coupe à l'oreille au centenier. Il prit l'oreille comme ça. Non, non, le gars a essayé de lui couper la tête, l'autre a fait comme ça, et c'est l'oreille qui est partie. Non, c'est ça, la réalité. Il n'a pas fait de la chirurgie esthétique. Hein. Mais ça, on l'oublie. Pierre était prêt à mourir pour son maître. Et c'est ça ce qui est paradoxal. À ce moment-là, il est prêt à mourir en se battant. Et puis, quelques heures plus tard, dans le prétoire, pris par la peur, pris par les angoisses, il est prêt à renier. Il dit, non, je le connais. Mais qu'est-ce que tu m'embêtes, servante, là? Je n'ai jamais vu ce type-là. Le même homme. Je ne me permettrai jamais de juger Pierre. Parce qu'à moins que vous ayez été dans les mêmes conditions que lui et sous les mêmes pressions que lui, personne ne saura jamais ce que ça voulait dire. La peur. Mais la peur peut vous dicter d'autres choix. Permettez-moi encore un exemple et puis j'irai plus loin. La peur peut amener, j'ai vu cela dans des églises de nombreuses fois, la peur peut amener par exemple des jeunes femmes à faire de mauvais choix. Pasteur, j'ai 30 ans maintenant, j'ai 35 ans et j'ai toujours personne à marier. Pas en Suisse. Et si je ne me marie pas, j'aurai plus d'enfants. Et puis il y a de l'angoisse qui vient. Et il y a une peur légitime et je ne juge pas. Et c'est avec un profond respect que je dis ces choses. Mais la peur peut vous pousser alors comme Abraham, avec Sarah, à faire le mauvais choix. Sarah se disait, mais si on n'agit pas maintenant, on n'en aura jamais. Oui, il y avait une promesse de Dieu. Mais la peur va l'amener à pousser son mari à faire quelque chose qui était en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est souvent ce que la peur nous dicte. Bon, si Abraham avait été marié avec ma femme Dominique, elle ne l'aurait jamais envoyé chez sa servante. Hein, jamais. Ça, je vous le promets. Jamais une telle idée lui serait venue à l'esprit. La peur. Mais combien de jeunes femmes aujourd'hui pleurent un mauvais mariage dicté juste par la peur? Oui, pasteur, je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Déjà, qu'est-ce que tu y faisais là-bas, toi? Hein? Oui, mais comme j'en trouvais pas dans l'église, vous avez vu les frères qu'il y a dans l'église, c'est à vous déprimer. Non, mais là, je vous dis des trucs que j'ai entendus. C'est des jeunes femmes me disent, mais attends, quand je regarde les gars qui sont dans l'église, mais alors? Et pourtant, chez nous, il y en a. Hein, j'ai un catalogue, si vous voulez, s'il y a des sœurs seules, là. Puis que je leur dis, mais fais pas ça. Oui, mais pasteur, il se convertira. Ah bon? Ah bon, mais si t'es sûr qu'il se convertit, pourquoi t'as pas attendu qu'il soit converti pour le prendre? Et puis après, je revois les mêmes jeunes femmes. Et dernièrement, j'ai eu ça. Une jeune femme qui pleurait, qui disait, je suis maintenant avec un enfant, mais j'ai voulu absolument avoir un mari. Et je l'ai cherché là où il ne fallait pas le chercher. Aujourd'hui, nous sommes déjà divorcés. Un jeune homme à qui j'ai dit, si tu te maries avec cette jeune fille, tu iras tout droit à l'échec. Il me disait, mais non, vous verrez, elle se donnera au Seigneur. J'étais tellement loin, j'ai dit, écoute, je suis tellement convaincu de ce que je te dis que moi, je ne célébrerai pas le mariage. Tu peux le faire. Tu peux aller où tu veux, tu es libre. Toi, tu es libre, mais moi aussi. Il s'est marié, il a divorcé 3 mois après. 3 mois. Et ça date de quoi? D'un an et demi, 2 ans? 3 mois après. La peur de ne pas avoir un mari, la peur de ne pas avoir une épouse. La peur peut vous dicter de très, très mauvais choix. Et ensuite, empêcher Dieu d'agir dans vos vies. Parce que la peur vous a amené à sortir de sa volonté. Et hors de sa volonté, il ne peut pas vous bénir. Hors de sa volonté, il ne peut pas agir. Hors de sa volonté, il ne peut pas vous libérer. Je pourrais multiplier les exemples, mais permettez-moi de continuer dans ma réflexion avec vous. D'où vient la peur? Qu'est-ce que la peur? La peur vient souvent lorsqu'il y a une perte de contrôle. Tant que nous contrôlons les choses, nous n'avons pas peur. C'est quand nous ne les contrôlons plus. Pourquoi est-ce que les disciples ont eu peur? Parce qu'ils ne contrôlaient plus la situation. Là, c'était hors contrôle. Le vent et l'eau, ça, eux, ils ne maîtrisaient pas. Tout ce qu'ils maîtrisaient, c'était leur petite embarcation. Mais celle-là, elle était hors contrôle. C'est l'eau, c'est les éléments. Ce sont les éléments qui ont pris le contrôle de la barque. Et là maintenant, c'est la peur. Et c'est exactement ce que nous avons ressenti lorsque vous ne contrôlez plus la situation. Vous savez, nous fonctionnons comme ça, et je le dis souvent, et peut-être que je l'ai déjà dit une fois ici, mais j'aime revenir là-dessus. Nous fonctionnons avec nos cinq sens. Et c'est nos cinq sens qui nous donnent les informations dont nous avons besoin pour prendre des décisions. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des sens en Suisse? Parce qu'à votre réaction, je me demande si je ne suis pas en face de Martiens qui fonctionnent autrement. Bon, nos cinq sens, vous les connaissez tous. Les cinq sens, c'est l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et au travers de vos cinq sens, vous recevez des informations. À partir de ces informations, vous prenez des décisions. Je prends souvent cette image-là parce qu'elle me plaît. Par exemple, je rentre à la maison, j'ouvre la porte. Mes narines détectent le fumet d'un lapin qui a été mariné dans le vin rouge, un civet. Mais tout de suite, l'ordre est donné par le cerveau aux jambes, vite à table. Ou l'inverse, je rentre, j'ouvre. Ça sent le sacrifice d'une grande fumée à l'éternel. En d'autres mots, le plat est cramé. Et là, l'information vient aussi. L'information vient. Va manger chez ta mère. Alors, je vais chez ma mère. Mais ça, on le fait des milliers de fois. Tous les jours. Tu crames jamais les repas. Non, ça devait être quand moi, j'ai fait la cuisine. Nos yeux, quand nos yeux voient quelque chose, pouf! Moi, la première fois que j'ai vu ma Dominique, les yeux m'ont donné une information. Et puis ici, ça a été le désordre. Et ensuite, l'information m'a amené à une décision, c'est-à-dire une déclaration. Ça, par contre, ça a été un accouchement au forceps. Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Mais on ne tombe pas amoureux, on va lui dire « je t'aime ». Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. T'as fait comment? Allez, je vais donner un truc là aux jeunes hommes, comme ça vous saurez comment faire. Moi, quand j'ai reçu l'information par mes yeux, il a fallu prendre du temps, évidemment. D'abord, comme tous les jeunes hommes, j'ai d'abord rêvé. Et puis, j'avais toujours l'impression qu'elle allait arriver, etc. C'est une belle période, hein? Période où on rêve, hein? C'est l'amour aveugle, le mariage ouvre les yeux. Bien. Et puis, alors que j'étais arrivé au stade où j'allais lui demander, lui déclarer en tout cas mon amour, je me souviens de ce jour-là, je lui ai dit... « Est-ce que tu accepterais de venir te promener avec moi ?» Elle me dit « Oui, pourquoi ?» Déjà, mesdames, ne faites pas ça. Déjà, suffisamment difficile. Alors, je lui dis « Je vais t'expliquer. » Et puis, on a commencé à marcher, on a marché, on a marché, on a marché, on a parlé de tout. Et moi, j'arrivais pas. Parce que j'avais peur du refus. Il n'y a rien de plus terrible dans ce moment-là que non. Ça te casse tout. Et puis alors, j'avais tellement peur qu'on a marché 2h30 sans que je sois arrivé à lui dire. Puis au bout d'un tour de 2h30, on était revenu à la maison, on était devant la maison. Et là, je lui dis, est-ce qu'on pourrait encore un peu continuer? J'ai quelque chose à te dire. Elle m'a dit, mais j'en peux plus, je suis fatigué. Je dis, juste encore un peu. Alors, je l'ai mené un peu plus loin. Et là, je lui ai dit, et elle m'a juste dit oui pour qu'on rentre à la maison. Elle était tellement fatiguée. La technique, messieurs, épuisez-la, elle vous dira oui. Bon, c'est pas écrit dans la Bible, n'allez pas dire. Donc nos cinq sens nous donnent des informations multiples, variées, etc. Cependant, lorsque nous recevons l'information, nous la traitons, et en la traitant, eh bien, nous prenons des décisions. Tant que ce cycle fonctionne, n'avons pas peur, c'est à partir du moment où ça ne fonctionne plus. C'est à partir du moment où l'information vient, mais la décision ne peut plus être prise parce que vous ne savez plus quoi faire. Où la décision ne peut pas être prise parce qu'elle n'est pas entre vos mains. Où la décision est prise, mais la solution ne vous appartient plus. À ce moment-là, ça devient terrible. À ce moment-là, l'angoisse vient. C'est ce que nous avons vécu avec notre fils Benjamin. Lorsqu'il est revenu, l'information, nous l'avions. C'est qu'il avait des hallucinations. L'information, nous l'avions, c'est qu'il était violent. Et quand je vous dis violent, il était capable de taper contre un mur ou un sac jusqu'à ce qu'il n'ait plus... Jusqu'à ce que ce soit cru. Je rentrais, il avait le visage enflé tellement il s'était frappé lui-même. Tout d'un coup, ou soudain, nous étions face à des régressions. Nous avions un fils qui venait de passer son bac, qui avait 19 ans, et qui nous parlait comme un enfant de 5 ans. Nous avions dû l'hospitaliser. Vous voyez que c'est simple lorsqu'il faut hospitaliser son fils. Alors évidemment, j'ai tout entendu. Ce sont les démons, c'est ceci, c'est cela. Et ça peut être l'un et ça peut être l'autre. Le fait est que nous n'avions plus la situation dans nos mains. Alors au départ, vous avez un élan, parce que vous vous dites, ça y est, on va voir des médecins, ils y connaissent. Et puis, on a commencé par nous dire, mais vous savez, il y a des traitements pour cela. Et puis, désespéré, vous êtes prêt également à accepter le traitement. Et chaque traitement vous donne de l'espérance que ça ira mieux. Le problème, c'est que ça allait de mal en pis. Le problème, c'est que le traitement, parfois, compliquait encore plus la situation. Rendait le tout encore plus illisible. Il en était arrivé à 9 Valium par jour. Il était arrivé jusqu'à 9 Valium et des Temesta. Il prenait jusqu'à 14 médicaments par jour. Et je me souviens, lorsqu'on est sorti un jour de l'hôpital psychiatrique, on se donnait la main, on pleurait tous les deux. C'était plus dans nos mains. Nous ne savions plus quoi faire. Priez, j'ai prié. J'ai chassé tout ce que vous pouvez chasser. Vous cherchez des solutions. En même temps, nous vivions une situation extrêmement difficile avec notre bâtiment. Je vous l'ai dit hier, notre bâtiment d'église que nous construisions était arrêté depuis 3 ans. Et j'étais en plein là-dedans. Et de surcroît, à ce moment-là, une entreprise qui était l'intermédiaire entre nous et l'entreprise allemande qui nous avait livré ce fameux plancher, à laquelle nous avions déjà versé 200 000 euros, avait fait faillite. Et dans cette même période, je me retrouve devant un tribunal où le juge me dit « Monsieur le pasteur, je ne peux rien faire ». Mais vos 200 000 euros sont dans la liquidation. Je rentrais à la maison, j'avais un fils qui avait parfois tellement peur qu'il se réfugiait sous le piano, qu'il s'enfermait dans des armoires, qui était, et ça m'avait détruit pendant un moment. Je l'emmenais en forêt, j'essayais de rester proche de lui autant que je le pouvais. Je me souviendrai toujours le jour où en automne les feuilles tombaient. Le bruit des feuilles provoquait de telles angoisses qu'il se repliait sur lui-même et il hurlait. Et là on dit, mais où es-tu Seigneur? Là tu perds tes repères, là tout d'un coup toute ta théologie là, t'es bien construite, devient branlante comme un bateau qui est en train de sombrer. C'est le sentiment que tu as, parce que Dieu lui ne s'ébranle pas. Dieu lui pendant ce temps garde le contrôle, mais toi, t'es dans le tunnel. Pour toi, tout est noir. J'arrivais au bureau, c'est le chantier qui était arrêté depuis 3 ans. Vous savez, quand dans un chantier, les mauvaises herbes poussent. Et puis, c'était dans la tête des chiffres et la liquidation. Et puis, je rentrais à la maison, c'était mon épouse effondrée. Et nous étions arrivés au summum de notre détresse lorsque la tension était tellement grande, tellement forte. Que malheureusement, eh bien, nous n'arrivions plus à communiquer entre nous. Ce soir, nous sommes là ensemble tous les deux. Mais nous n'arrivions plus à communiquer, nous n'arrivions même plus à parler ensemble. Tout n'était plus que tension, tout n'était plus qu'électrique. Le moindre mot enflammait l'atmosphère. Nos autres enfants avaient du mal à rentrer. Et puis, lorsque je suis rentré à Noël, et je le dis, mon épouse est présente. Je rentre le jour de Noël. Nous attendions nos enfants, mes fils, mes filles, mes petits-enfants. Je sors du culte et quand j'arrive à la maison, sur l'escalier et à d'autres endroits, une lettre que Dominique avait écrite qui disait simplement « Je n'en peux plus, je pars ». Elle était partie. Et je ne savais pas où elle était. Et personne ne savait où elle était. Sur le moment, j'étais en colère. J'étais en colère. Et je disais, mais tu n'as pas le droit de me laisser maintenant que c'est difficile. Maintenant que c'est tellement dur, toi tu pars. Le problème c'est qu'elle était 24 heures sur 24 avec ce garçon. Moi encore, je partais, je revenais, je sortais, j'avais encore une activité intellectuelle autre. Et puis en rage, j'ai fait le repas de Noël. Je suis un très mauvais cuisinier. Je me souviens, une semaine, ils ont mangé du poisson pané, une semaine, tous les jours. Une semaine. De quoi recevoir des écailles. Et dans cette semaine-là, alors que j'étais sur l'autoroute allemande avec mon fils dans la voiture, subitement il ouvre la porte pour se jeter sur l'autoroute et se suicider. Et à ce moment-là, j'étais tellement, vous savez, tellement perte de tout contrôle. Vous avez le sentiment que tout vous échappe. Et c'est pour ça que je comprends qu'à un moment donné,
ils viennent, ils crient, nous périssons. Il n'y a plus d'issue. Je ne vois plus rien. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment faire. Je bénis Dieu pour la passagère arrière qui a réussi juste à le retenir. Et je me suis garé en catastrophe. Celle qui suivait, la voiture qui suivait, c'était ma fille. Imaginez un seul instant si sa sœur l'avait tuée. J'étais tellement mal, je suis tout de suite parti à l'hôpital et là, j'ai dû le faire hospitaliser de force. Il est arrivé en psychiatrie où il a voulu étrangler quelqu'un. Il a passé du temps enfermé et attaché. Nous ne pourrions plus le voir. Et là, tout pasteur que vous êtes, tout homme de foi que vous êtes, vous avez le sentiment que la mort est plus douce que la vie. C'était à ce stade-là. J'arrivais à l'église, le bâtiment était arrêté. Financièrement, nous étions face à cette faillite. Et de l'autre côté, je rentrais, mon épouse était partie, la maison était vide, et mon fils était hospitalisé. Mon épouse est revenue au bout de quelques jours, et lorsqu'elle est revenue, j'étais tellement en colère, je lui ai dit, mais pars, tu m'as laissé quand c'était le pire. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Vous savez, l'amertume, l'angoisse, toutes ces choses peuvent vous amener à des extrêmes. Aujourd'hui, bien sûr, je sais ce qu'elle a vécu, mais sur le moment. Et puis, je suis allé visiter mon fils, nous nous croisions. Moi, j'allais le voir. Et elle y allait quand j'y étais pas, tellement c'était devenu dur. Et je vous dis ces choses simplement pour que vous réalisiez que ceux qui prêchent sont des gens comme vous. Mais que le Dieu dont nous servons, c'est le même. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, il était déjà là-bas depuis quelques jours, il avait passé des jours en isolement. Une infirmière qu'il avait prise en, à quelque part qu'il avait prise en affection, elle parle avec moi, elle dit, Monsieur Peter Schmidt, je dis oui, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Puis il y avait un sas de sécurité, parce qu'il était un endroit où on avait mis les gens qui étaient plus ou moins dangereux. Il y avait un sas de sécurité, une première porte, puis on avait le sas, puis une deuxième porte. Et elle me suit, elle arrive jusqu'à la deuxième porte, elle me dit, monsieur, je ne sais pas si je peux vous parler. Et je lui dis, mais allez-y. Et là, elle me dit, vous savez, on est dans une période où il y a des changements d'énergie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet oiseau encore? J'en ai déjà pas assez avec tout ce que j'ai là. Et puis tout d'un coup, elle me regarde et elle me dit, monsieur, je ne sais pas si vous y croyez, mais il y a des entités qui n'aiment pas la lumière. Et là, j'ai affaire à une femme qui n'est pas une croyante, qui me parle d'entités qui n'aiment pas la lumière. Elle me dit, y croyez-vous? Je lui dis, oui madame, je crois ces choses-là. Elle parlait avec ses mots à elle. Et là, elle commence à me dire quelque chose, et je sais, c'est plus elle qui me parle, c'est Dieu qui me parle au travers d'elle. Elle me dit, monsieur Peter Schmidt, vous êtes pasteur? Je dis, oui. Ne croyez-vous pas que ces entités cherchent à vous détruire, vous, en détruisant votre fils? Si n'importe quel pasteur, n'importe quel chrétien m'avait dit ça, ça n'aurait eu aucun effet sur moi. Une femme qui connaît rien à rien, qui me parle comme ça. Je suis sorti de là, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui me parles. Je sais que c'est toi qui me parles. Je sais qu'il y a un enjeu beaucoup plus grand que simplement mon fils. Je sais qu'il y a un enjeu plus grand, il y a un enjeu spirituel qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus global. Et tout d'un coup, à ce moment-là, c'est comme si j'avais pu entendre, je ne vais pas vous dire j'ai entendu une voix, non, pas du tout, mais c'est comme si j'avais pu entendre, Satan, tu ne le touches plus maintenant. Satan, tu ne le touches plus. C'était quoi? Le jour d'après ou deux jours après, je ne sais plus. Le matin, notre fils se lève, totalement guéri. Les psychiatres dans une incompréhension totale. Plus aucun médicament. Rien, plus aucun médicament. Ils le prennent pour essayer de le diagnostiquer. Résultat, aucune maladie psychiatrique. Dans les jours qui ont suivi, l'organisme qui avait arrêté depuis 3 ans la construction me dit, vous pouvez reprendre la construction. Le liquidateur qui nous avait dit que c'est dans la liquidation va voir notre avocat en disant, on règle ça entre nous. Et tout était terminé. Et tout était terminé. Je sortais d'une épreuve de quasiment une année avec mon fils, 3 ans avec le bâtiment, et tout d'un coup, c'est comme si vous aviez tourné un interrupteur, tout était terminé. Évidemment, lorsque mon fils est revenu à la maison, nous avions tous les deux, vous savez, comme les traumatisés, des angoisses. Dès qu'ils regardaient dans un coin, une peur me saisissait. C'est qu'ils voient de nouveau quelque chose. Et il a fallu du temps jusqu'à ce que, hey, il est guéri. Il est totalement guéri. Aujourd'hui, il travaille entre autres dans un institut où se trouvent des personnes âgées avec des déficiences intellectuelles. Et il fait un job extraordinaire. Dimanche le 2 février, il donnera là, le dimanche à venir, le 2 février, il donnera son témoignage et son psychiatre sera avec nous sur l'estrade. Et je bénis Dieu pour ça. Quand il n'y a plus de solution, la peur est là quand il n'y a plus de solution parce que tous tes indicateurs te donnent l'information, mais tu n'as plus de réponse. Et c'est quand il n'y a plus de réponse que vient la foi. C'est à ce moment-là que Dieu me disait, Satan, c'est terminé. Et j'ai retrouvé du courage à ce moment-là. Et j'ai retrouvé de la force à ce moment-là. Et puis soudain, j'étais capable eh bien, de croire que ce qui est impossible est possible. Souvenez-vous de Jaïrus. Vous connaissez son histoire. Permettez-moi juste de vous citer courtement et ensuite nous terminerons. Pour ceux qui ont leur Bible, dans Marc 5, verset 21, permettez-moi de le lire avec vous. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. L'information, c'est « ta fille va mourir ». La femme que vous avez vue tout à l'heure, on lui donnait 5% de chance. Quand on vous donne 5% de chance de survie avec un cancer, c'est que vous êtes plus mort que vivant. Elle était dans nos bureaux lorsqu'elle avait un ventre comme ça, rempli de liquide métastasé. Et je me souviens du dimanche matin où il y a eu cette parole de connaissance qui disait « il y a une femme qui a le cancer. Vous allez être opéré, mais au moment où ils ouvriront, ils ne trouveront plus rien ». Ils l'ont ouvert pour constater qu'il n'y avait plus rien. Et le récit continue. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « ta fille est morte ». Ça c'est l'information. Quand votre cerveau entend ça, c'est qu'il n'y a plus de solution. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, écoutez bien, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue « ne crains pas, crois seulement ». Jésus savait très bien que ce genre de déclaration allait engendrer la peur. Et la peur vous empêche d'entrer dans le miracle. Et la peur, c'est ce qui vous fait sombrer comme Pierre quand il marchait sur l'eau. C'est la peur qui l'a fait sombrer. Et pourtant, il y a des moments où ça nous semble être une voie sans issue. Dieu agit-il encore? C'était la question avec mon fils. Allons-nous nous en sortir? Y a-t-il encore une issue? Y a-t-il encore un chemin? Le bâtiment va-t-il être arraché ou allons-nous continuer? La peur vous enferme dans une logique de désespoir. Il est dit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, et là je fais une remarque importante. Il n'est pas dit que Jésus ne croyait pas à ce qui venait d'être dit. Il est dit ne tenant pas compte de ses paroles. La foi, ce n'est pas la politique de l'autruche qui nie la réalité. J'entends parfois dans des églises ou dans des enseignements des positions qui me semblent tellement erronées. J'ai entendu des personnes dire, vous savez pasteur, j'ai un cancer. Et à côté d'eux, un chrétien dire, mais non, faut pas dire que t'as un cancer. Dis déjà que t'es guéri et tu seras guéri. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te dise, il en a un. Mais il en a un. Oui, si tu dis que t'en as un, t'en auras un. Mais non, il l'a déjà. On confond le positivisme, la méthode Coué avec la foi. La foi regarde la réalité en face. Oui, j'ai un cancer. Mais je connais Yahvé Rapha. Oui, nous avons un fils malade. Oui, nous ne voyons pas d'issue. Oui, nous sommes entrés dans cette maladie. Mais personne ne peut nous dire quand nous en sortirons. Quand vous vous brisez une jambe, vous savez que 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, vous marchez de nouveau. Mais quand vous êtes atteint psychiquement, alors personne ne peut vous dire où ça ira. Mais nous avons Yahvé Rapha. Mais nous avons l'Éternel qui peut dire, ça suffit Satan, tu ne le touches plus maintenant. Sans tenir compte de ses paroles. Pas tenir compte des paroles ne veut pas dire que ce qu'ils avaient dit était faux. Elle était morte et bien morte. Mais Jésus nous amène là à considérer plus qui il est lui que la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne dénigrons pas ce que nous vivons. Nous ne fermons pas les yeux sur ce que nous vivons. Mais nous regardons à celui qui peut nous en délivrer. Et ce que je vous ai partagé ce soir au sujet de notre fils, eh bien je vous assure, ça a été tellement fort, tellement extraordinaire. Et ce que j'avais vécu avec celui qui avait la tumeur au cerveau, vous savez, celui qui a la tumeur au cerveau, il est médecin maintenant. Aujourd'hui, c'est lui qui soigne d'autres. Le Dieu que je sers est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Et je sais qu'il agit, même quand je ne comprends pas ce qu'il fait. Et je sais qu'il ne perd pas le contrôle. Et j'ai appris une chose, c'est faire comme Jaïrus, écouter son conseil. Ne te donne pas compte, crois seulement. Laisse pas la peur maintenant te dominer. Laisse pas la peur t'enfermer dans une spirale d'incrédulité. C'est à cause de la peur que les 10 espions de hier soir ne sont pas entrés dans le pays promis. C'est à cause de la peur que certains n'entrent pas dans la guérison. C'est à cause de la peur que certains foyers continuent à se laisser détruire. C'est à cause de la peur que certaines églises continuent à rester ce qu'elles sont. Commencez à regarder et à obéir, même si ce qu'il vous dit vous semble tellement contraire à ce que vous vivez. Vous savez, je termine par cette image-là. Un jour, j'étais avec un groupe de jeunes ados et il y avait là un spécialiste de la montagne qui nous dit « on va escalader une montagne ». Alors, il me dit « tu viens avec ». Moi, l'escalade, moi tout ce que j'escalade, c'est mon lit chaque soir. Une fois que je suis dedans, je suis bien content. Et puis, je dis, oui, pourquoi pas, tiens, ça pourrait être sympa, etc. Mais je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que lorsque nous étions élevés de 20 cm, je me sentais très à l'aise. J'avais pas peur. On est monté à 1 mètre. Je me sentais toujours encore bien. Et à 2 mètres, je me disais, au pire, tu sautes. Le problème, c'est quand j'ai une fois été à 50 ou 60 mètres. Là, j'ai eu le malheur de me retourner. Il y avait la corde. Alors, c'était pas la falaise, hein, mais c'était quand même très... Il fallait se cramponner à la corde. Hein. On avait les mousquetons, ils appellent ça, là. Et le baudrier, vous voyez. Je regarde en arrière. Et là, j'étais au bout de ma corde. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me suis repenti là, je me suis repenti. Mais en même temps j'étais paralysé. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu es venu faire au bout de cette corde? Mais pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce que tu es bête? Je pensais en français, donc on pense avec d'autres mots encore. Hein. Là je l'ai traduit en suisse. Et j'arrivais ni plus à avancer, ni plus à reculer, ni j'étais plus que là. Puis soudain, celui qui était le spécialiste me dit, écoute-moi, tu vas maintenant scrupuleusement faire ce que je te dis. Et moi je disais, oh oui, 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 oh oui, j'ai jamais été aussi obéissant. Il dit, mets ta main droite là, oui, 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 mets ton pied gauche là, oh oui, oui. À aucun moment j'ai dit, pourquoi là? Jamais, oui, 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 oui. Mais ma femme, elle rêve que je lui obéisse comme ça. En 30 ans de mariage, t'as pas encore réussi, hein? Je crains, chère sœur, que vous n'y arriverez jamais. Mais scrupuleusement, tout ce qu'il me disait, j'essayais même pas de dire, mais pourquoi? Ou j'essayais même pas de, tu crois pas que là, ça serait mieux? Non, non, il m'a dit là, il doit avoir raison. Quand j'étais en haut, je l'ai serré. C'était la journée des câlins avant-hier. Mais lui, je lui en ai donné pour 50 ans. Hein. Et là, j'ai découvert quelque chose. Quand tu obéis, dans la pire des situations, parce que tu lui obéis, il t'en sort. Tu le vois agir à ce moment-là. Pourquoi tant de croyants se disent, est-ce que Dieu agit-il encore aujourd'hui? C'est parce qu'il y en a si peu qui sont prêts à lui obéir. Il y en a tellement qui le remettent en question. Il y en a tellement d'autres qui, par la peur, sont paralysés. Si nous sommes là avec Dominique aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Si notre fils est guéri, c'est une grâce de Dieu. Si son médecin psychiatre vient témoigner. Elle me disait à certains moments, ça fait 20 ans ou 25 ans que je pratique, j'ai jamais eu un cas aussi compliqué que ça. Et elle me dit, pourtant j'en ai vu. Elle est chef de pôle dans un hôpital psychiatrique. Et là, tout d'un coup, et tu ne sais pas pourquoi maintenant, et tu ne sais pas comment, mais tout d'un coup il se réveille, il est guéri. Tout d'un coup tu retrouves ce fils que tu as quasiment laissé un an avant. Et tu as l'impression que tu reviens à l'aéroport, mais qu'au lieu de vivre le cauchemar pendant un an, tu retrouves ce fils qui était parti en Angleterre. Mais non seulement on a retrouvé ce fils-là, on a retrouvé maintenant un homme avec de l'assurance, qui sait où il va. Chers amis, Dieu agit-il ? Oui, il agit. Oh oui qu'il agit. Et j'aimerais vous dire, c'est trop dommage que vous ne le laissiez pas plus agir. Je pourrais aujourd'hui encore faire passer des témoignages, je pourrais encore faire parler des personnes. Je vais m'arrêter là. Oui, il agit. Oui, il agit. Pouvons-nous fermer nos yeux un instant ? Est-ce que le pianiste pourrait venir au clavier et jouer tout doucement ? Pouvons-nous nous recueillir un instant ? Pardonnez-moi le temps à passer, mais je crois que Dieu veut redonner de l'espoir ce soir à des hommes et des femmes désespérés. Dieu veut vous permettre de voir la lumière là où vous avez le sentiment que plus jamais elle ne reviendra. Dieu est capable de tracer des chemins là où vous et moi nous n'en voyons pas. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour Dominique, il l'a fait pour moi. Étions-nous plus dignes que quiconque ? Oh, certainement pas. Je vous ai donné simplement certains aperçus de ce que nous vivions, et je vous assure que ce n'était pas reluisant. Mais sa bonté a été plus grande que ma médiocrité. Sa bonté a été plus grande que mes faiblesses. Ce soir, il est présent. Et à quiconque lui demande, « Agis-tu encore ?» il répond, « En moi, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Ce que j'ai fait hier, je le fais aujourd'hui et je le ferai demain. Mais ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. » Est-ce que le fait d'entendre « ne crains pas » et « crois seulement » nous libère aussitôt de toute crainte ? Non, nous allons lutter par la foi pour que cette crainte ne prenne pas le dessus. J'ai éprouvé la peur, je l'ai éprouvée. Mais j'ai appris à regarder l'Éternel. Dans ces moments de détresse avec mon fils, je ne sais pas combien de fois j'étais en forêt avec ma Bible et je hurlais les psaumes. Je disais comme David, « Sauve mon âme de sa prison. Sauve mon âme de sa prison. » Et lorsque j'étais debout la nuit, et lorsque mon fils errait parfois à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, je lui disais, sauve mon âme de sa prison. Et il a agi. Et il ne m'a pas laissé, ni moi, ni mon épouse, ni mon fils, ni mes autres enfants, dans la détresse. Et il ne vous laissera pas. Mais au-delà de tout cela, il veut une chose, c'est que vous n'ayez jamais à vivre l'angoisse d'une éternité sans lui. L'angoisse d'une éternité coupée de lui, et ceci pour toujours. Sans plus de retour possible, d'une éternité où, comme le riche dans le récit de Lazare, il n'y a plus de point de retour. Mais pour que cela n'ait pas lieu, vous avez besoin du Sauveur. Jésus est venu mourir sur la croix, pour que vous n'ayez pas à vivre cette peur-là. Un jeune homme dernièrement, qui a fait une tentative de suicide, et qui est resté un mois et demi dans le coma, me disait, là où j'étais tellement tourmenté. Ce que j'ai vu était tellement terrible que je voudrais que personne n'aille là où j'étais. Et si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Il m'a dit qu'il me permettait de revenir pour que je dise à ceux qui m'entourent de ne pas aller là où j'étais. Chers amis, il y a ces peurs que nous pouvons avoir qui sont passagères. Mais il y aura les angoisses éternelles qui engendrent les grincements de dents. Christ est venu pour vous sauver. Le Fils de Dieu quitte le ciel pour cela, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que jamais nous n'ayons à vivre cela, ni de près ni de loin. La première des choses pour que Dieu agisse dans une vie nécessaire, c'est de le recevoir. Il n'agira jamais là où il n'est pas reçu, là où il n'est pas accueilli, il n'agira jamais. Et c'est ma prière ce soir, puissiez-vous le recevoir, si vous êtes là ce soir, et que vous ne lui avez pas clairement donné votre vie. Je ne parle pas d'adhérer à une religion, je ne parle pas d'aller à l'église. L'enfer est rempli d'hommes et de femmes qui allaient à l'église. Je parle d'hommes et de femmes qui ont réellement donné leur vie à Christ. Je parle d'hommes et de femmes qui ne se sont pas contentés d'entendre parler de lui, mais qui peuvent dire maintenant, mon œil te voit. Si vous êtes là ce soir, vous n'avez pas fait ce pas, lui seul peut vous sauver de toutes vos détresses. Et Dieu seul sait dans quelle détresse j'étais. Vous ne pouvez pas savoir ce que je suis heureux qu'il m'en ait délivré. S'il y a quelqu'un ce soir qui veut lui dire, bon, je veux te donner toute ma vie. Il y a peut-être des jeunes gens qui, comme Melvin, ont besoin de dire, je te donne toute ma vie. Il y a peut-être des personnes qui se rendent compte, mais moi, tout n'est que tradition et routine, même parfois évangélique. Je veux me remettre en question. Je veux te donner toute ma vie. Je veux te voir agir. Mais non plus te voir agir pour te voir agir, mais simplement te voir agir parce que tu es présent dans ma vie. Je voudrais prier pour vous, que ceux qui le désirent lèvent leur main puis la baissent. Votre main levée signifie, je le désire. Oui madame, oui monsieur tout au fond, oui madame, oui, 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 beaucoup de mains levées, oui madame, oui monsieur, vous pouvez baisser votre main. C'est entre vous et Dieu, mais si vous voulez voir Dieu agir, alors il a besoin de toute la place, de toute votre vie. Il ne désire pas seulement être résident de votre vie, il veut la présider, cette vie-là. C'est notre dernière soirée. Je n'insisterai pas parce que pour moi, venir à Christ, c'est une grâce. C'est un privilège que lui nous fait. Mais en même temps, je sais qu'il peut y avoir un combat. Et c'est pourquoi je dis, s'il y a encore une personne, levez votre main, puis baissez-la si vous ne l'avez pas fait, et ensuite nous prierons. Et je sais que Dieu est fidèle, et je sais que Dieu sauve, et je sais que Dieu sauve. Oui madame, oui monsieur. Puis-je me permettre de demander aux personnes qui ont levé leurs mains de s'approcher ici? Hier soir, j'étais malheureusement contraint par le temps. Je devais partir, mais ce soir je voudrais avec vous prendre le temps de prier. Vous qui avez levé votre main, pouvez-vous venir jusqu'ici? Vous levez de votre place et nous prierons ensemble. Sortez simplement de vos rangs et approchez-vous. Ne regardez pas à droite, à gauche, le voisin, la voisine. Vous savez, j'ai appris une chose quand vous êtes dans l'épreuve, c'est que le voisin et la voisine, même s'ils nous montrent de l'empathie, ne peuvent pas nous délivrer. Nous avons besoin de celui seul qui peut le faire. Parce que dans l'auditoire, on peut fermer nos yeux, prier pour tous ses amis. Approchez-vous, approchez-vous. Pouvons-nous nous donner les mains les uns aux autres? Pouvez-vous répéter avec moi cette prière? Dans la mesure où vous êtes en accord avec elle, vous pouvez également élever votre propre prière. Il ne s'agit pas simplement de répéter-la mécaniquement. Il s'agit là d'exprimer le fond de votre cœur. Je vais prier et en même temps, je vous laisse l'initiative de prier votre prière face à votre situation. Père, je prie pour ces merveilleuses personnes qui sont ici. Toi, tu les connais individuellement, personnellement. Chacune d'entre elles est chère à ton cœur. Il n'y en a pas une dont tu ignores le nom, ni la vie, les luttes et les combats, les moments où ils étaient heureux et les moments où ils ont plongé dans le malheur. Mais ce soir, tu es venu pour sauver. Tu es venu pour donner une vie nouvelle et tu es venu pour que le ciel prenne place dans leur cœur. Tu veux agir. Tu as toujours voulu agir. Tu n'as jamais rien demandé d'autre que de pouvoir agir. Ce soir, nous ne voulons pas laisser de place ni à la peur qui nous paralyse, ni à la peur qui nous mène dans de mauvais choix. Mais nous voulons venir et nous repentir devant toi en te disant pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous toutes les fois où, parce que nous avons laissé la peur nous dominer, nous avons fait, comme Pierre, de mauvais choix, comme Abraham et Sarai, de mauvais choix. Nous avons choisi de mauvaises voies, comme, Seigneur, les religieux, nous Nous n'avons pas apporté le secours parce que la peur nous paralysait. Ce soir, nous venons vers toi et nous te prions, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons laissé, où nous t'avons ignoré. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons voulu nous-mêmes tout contrôler. Ce soir, viens dans nos cœurs. Lave-nous par ton sang précieux. Purifie-nous et nous serons plus blancs que la neige. Ta parole nous dit si, Seigneur, nos fautes sont comme le cramoisi, alors ils deviendront plus blancs que la neige. Lave ces amis. Manifeste-toi dans leur vie. Donne-leur un nouveau départ. Seigneur, en rien, je n'ai plus de mérite qu'eux. En rien, je ne pourrai invoquer ceci ou cela pour expliquer ce que j'ai vécu, si ce n'est que le Dieu que je sers est fidèle, même dans les moments où j'étais infidèle. Le Dieu que je sers a su me pardonner, me relever. Merci de leur faire du bien ce soir, et de leur permettre un nouveau départ, une vie nouvelle en toi. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Je vais également prier pour les malades. Je ne vais pas longuement prier pour les malades, parce que là aussi, souvent, on pense que plus la prière est longue, plus elle est efficace. C'est votre foi qui est importante. S'il y a des anciens qui peuvent venir prier avec nous, qu'ils s'approchent, là aussi, ne regardez pas qui va prier pour vous. Trop souvent, on se focalise, on dit c'est vers lui que je dois aller. C'est lui qui a vécu tout cela, lui. Non, non, vous venez vers le Seigneur. C'est lui qui est le grand médecin. C'est lui qui guérit. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Maintenant, pensons à ceux qui sont là. Soyons pleins de compassion, pleins de miséricorde. Je me mettrai juste sur le côté gauche et je prierai avec les malades. Que ceux qui sont malades, qui ont besoin de guérison, approchez-vous.